I'm reflecting the light. They put cuffs from your third eye and rest. Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'État ne respecte pas la loi. Donc on nous demande de respecter la loi alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Si on part dans cette dynamique en ce moment de politique, etc., de la haine de l'étranger, machin, c'est qu'on risque de faire des grosses conneries dans le futur, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention et tous se mettre d'accord, qu'on soit de droite, de gauche, de se mettre un peu des barrières et de se dire c'est quoi notre socle commun. Notre politique, elle se doit de respecter l'individu, elle se doit de pas maltraiter les individus et de conserver la dignité de l'individu, de pas sortir de ça, quoi. Enfin, j'espère, quoi, qu'on peut être tous d'accord là-dessus. C'est qu'on ne doit pas maltraiter les gens, quoi. C'est pas possible.
Et pourtant, des gens maltraités, il y en a partout. Dans nos rues et nos ghettos, et aussi à nos frontières. Lui, c'est Cédric Héroux, tout petit agriculteur à la frontière franco-italienne qui, en 2015, s'est mis à aider des migrants à traverser la frontière pour leur éviter de crever de froid en montagne.
Quand on lutte contre la précarité, on lutte en fait pour le socle commun, en fait, du respect de l'individu. C'est une dynamique qui est internationaliste en fait. On ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas la religion, on ne regarde pas le genre, on ne regarde pas l'âge. On aide les gens parce qu'il faut les aider. Et pas parce qu'ils sont gentils. Hein. Même on peut aider des connards en fait. Hein. Parce que ce qu'on ne veut pas, ce qui est compliqué dans la précarité, c'est que si tu laisses des gens à la rue, dans la précarité, ils vont foutre le bordel en fait, forcément. Tu laisses des jeunes dormir dans la rue sans bouffer sur la place du village ou dans le quartier ou dans la ruelle pour bouffer ou pour machin, ils vont vous voler ou ils vont, tu vois, la précarité emmène à la délinquance. Et on n'aide pas les gens pour eux-mêmes en fait, on n'aide pas une personne en fait, on fait société. Il n'est pas concevable en fait de laisser les gens dans la rue parce que ça va créer un trouble d'ordre public. C'est pour ça que cette lutte en fait en faveur des étrangers, c'est pas une lutte en faveur des étrangers en fait, c'est juste une lutte de la condition dans laquelle on veut vivre ici, là, sur un point de vue local.
Après avoir été plusieurs fois arrêté et poursuivi en justice pour cette sorte de délit de solidarité, Cédric Héroux va être à l'origine d'un important changement de la Constitution française. Notre devise proclame liberté, égalité, fraternité. Or, si la loi s'occupait de liberté et d'égalité, elle ne disait par contre pas grand-chose sur la fraternité. En 2018, Cédric Héroux saisit le Conseil constitutionnel avec deux questions prioritaires de constitutionnalité, ce qui conduit le 6 juillet 2018 à la consécration du principe constitutionnel de fraternité et de la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Il nous le racontera tout à l'heure. Dans une société et ce monde en décomposition face auquel on peut parfois se sentir impuissant, démuni, découragé, des pistes de réflexion et d'action joyeuses, Cédric en a quelques-unes à vous proposer. Il va être ici question de cohérence avec soi-même et de trouver de la joie dans ses luttes. Salut Cédric.
Salut.
Alors Cédric, au moment de cet enregistrement, on est fin novembre 2022. Tu viens de passer la journée en rencontre à la salle de spectacle Bateau Ivre à Tours. C'est l'une des étapes d'une sorte de tournée de ville en ville que tu fais en ce moment. Qu'est-ce qui t'amène à sortir de ta vallée de la Roya pour aller rencontrer des gens à travers la France ?
Ben, l'idée en fait, c'est de donner envie aux gens d'agir et de se reposséder un peu des différentes luttes, de se construire et d'être assez opérant pour essayer de continuer les luttes en étant heureux, quoi. En fait, l'idée c'est un peu ça, quoi. De savoir qui on est soi-même, de savoir qui sont les autres et d'essayer de construire. En fait, c'est mettre du pragmatisme dans l'utopie, en fait. L'idée, elle est là, quoi. C'est que moi, je suis sorti de la Roya avec tout ce qu'on a fait dans la Roya, avec tout ce qu'on peut connaître, avec les gardes à vue, les procès, avec tous ces gens qui arrivent de loin, ici, dans la Roya, et comment on se construit, et comment on construit aussi, et comment on construit les autres, et comment on construit ensemble. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de redonner du courage aux gens qui luttent, ou même donner envie aux gens qui ne luttent pas, mais qui se disent, tiens, il y a un problème, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, j'ai envie d'agir, et des gens comme ça, il y en a plein, quoi. Et l'idée, c'est de pousser les gens, pas les pousser, mais de les libérer, en fait, et de... C'est peut-être un peu présomptueux, quoi, mais même si ça marche qu'à moitié, c'est pas très grave, quoi. En fait, moi, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu et ce qu'on vit actuellement dans la Vallée de la Roya pour être contagieux, quoi, parce qu'on a besoin d'être contagieux. Et surtout, j'ai envie de sortir de la révolte et de passer du côté de la révolution. Parce que je pense que la révolte, en fait, c'est tout casser. Mais des fois, il y a besoin de tout casser, hein, pour reconstruire. Mais moi, je suis plus dans la dynamique de la révolution, de la concrétisation, en fait, des utopies. Et de montrer, en fait, qu'on arrive à créer de l'utopie pragmatique. Tu vois, souvent, on entend dire des personnalités politiques. En fait, moi, c'est ce qu'on me reproche. Oui, Cédric Herrou, c'est un idéologue, un utopiste, etc. Mais s'il n'y a pas d'utopie dans la gestion politique, ne fais pas de politique, en fait. Parce que si tu regardes tout ce qu'on a acquis, imagine-toi maintenant, par exemple, je sais pas moi, les congés payés, l'assurance maladie. Si, imagine-toi, ça n'existait pas aujourd'hui, tu te dis, bon, on va faire un truc, on va cotiser tous ensemble et tout pour soigner tout le monde. Personne n'adhérait, là, avec le discours médiatique qu'on a en ce moment et politique qu'on a en ce moment, ça ne marcherait pas, quoi. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver et de se permettre, en fait, d'accéder à une concrétisation idéale et utopiste, quoi.
T'as prononcé un mot que j'avais pas entendu depuis longtemps et qui pourtant est essentiel. T'as parlé de joie, plaisir, joie.
Mais il y en a besoin, en fait, mais c'est de l'ordre du pragmatisme. C'est qu'on peut pas arriver à changer les choses si on est malheureux. Et le problème, en fait, du militantisme actuel, c'est qu'on a des gens qui sont en burn-out militante, en fait, et des gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont débordés. Et c'est comment on organise sa vie, comment on cadre sa vie pour être opérant et fonctionnel, en fait. Tu vois, nous, on a créé Emmaüs Roya, et les gens se diraient, ouais, c'est une utopie, on peut pas le faire, etc., machin. Mais c'est une organisation, en fait, c'est une asso, bien évidemment, un but non lucratif, mais ça reste une action entrepreneuriale, en fait, avec des budgets à respecter, avec trouver de l'argent, puis travailler, quoi. Enfin, on travaille beaucoup, on a 15 à vivre sur le site, et il faut que ça fonctionne. Mais ce qui est compliqué, c'est le truc du en même temps, hein, mais c'est en même temps arriver à vivre de salut de façon joyeuse et en même temps à construire un idéal de façon pragmatique, quoi.
Est-ce que t'as passé une bonne journée ici à Tours au bateau ivre, parce que t'es venu aussi pour de l'échange d'expériences? Voilà, est-ce que ça a été nourrissant?
Oui, bien sûr, mais plus on voit de choses, plus on se nourrit, quoi. Mais le problème, c'est qu'on apprend tous les jours, mais on oublie aussi tous les jours. C'est un peu le problème. Mais ouais, évidemment, mais moi, je suis là aussi pour apporter, mais aussi beaucoup pour prendre, quoi. Prendre des initiatives, et puis ça enrichit, quoi. Ça fortifie de sentir que quand t'es chez toi et que tu galères et que tu fais des choses et tu te dis, bah, c'est pareil ailleurs, quoi. C'est qu'il y a des gens qui font des choses et créer des liens, créer des ponts. À gauche, on n'est pas très bon. En tout cas, on est plus bon pour ça, quoi. En fait, on est très mal représenté. En fait, tous les milieux alternatifs, associatifs, enfin, moi, je me sens pas représenté, quoi. Pas du tout, quoi. Mais c'est qu'on a besoin de se connaître entre nous et de pouvoir échanger sur les luttes qu'on mène, qu'elles soient environnementales, toutes les luttes, en fait, pour du social, pour du vivre ensemble, pour du respect de l'individu ou même de l'animal, en fait. Hein. Mais je crois qu'on a des luttes tous communes qui se ressemblent et on a besoin de créer des ponts.
Tu es un homme de la terre. As-tu d'ailleurs toujours été un homme de la terre?
Non, moi je suis citadin. J'habite dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. C'est un quartier niçois, populaire. Quartier populaire, t'entends en fait beaucoup de gens issus de l'immigration, avec des enfants en fait où les parents ont vécu la migration. Et aussi, j'ai des parents en fait qui. Ma mère est à Sainte Maternelle, elle m'a appris à partager ma chambre, mes jouets, tu vois, ce socle en fait, qui devrait être commun d'ailleurs. Hein. Et je suis né un peu là-dedans, quoi. Et je suis arrivé, j'ai connu la Roya, je vais avoir 16-17 ans par là. Parce que c'est mon frère qui avait connu sa compagne, avec qui il a fait 3 enfants, il est toujours avec elle. J'ai découvert le père de Suzy, donc la compagne de ma femme, un hippie, voilà, il est décédé il y a 2 ans, mais qui est arrivé dans les années 70 dans la vallée de la Roya. Tout ce mouvement des années 70, tu vois, le mouvement hippie, ils sont là en Inde, etc., machin. Et c'est pas un truc que je voulais refaire, c'est pas ça, mais ça m'a inspiré dans le sens où ça m'a ouvert des portes de me dire, bah, y a d'autres possibilités de vie. C'est pas que j'avais envie de faire la même chose, c'est pas ça, mais je me suis dit, tiens, il est possible en fait de faire autrement. Et ça m'a permis en fait de venir dans la Roya, d'acheter un terrain pas cher. Pourquoi pas cher? Parce que complètement abandonné, une friche complète abandonnée avant-guerre. Donc c'était la forêt complète. Donc j'ai débroussaillé, taillé les oliviers, etc.
Il y avait déjà des oliviers
sur place? Il y avait déjà des oliviers sur place. Ouais, c'était des oliviers qui ont été plantés il y a plus de 200 ans, mais qui ont été abandonnés, quoi. Parce qu'il y a vraiment une population en fait qui a abandonné les campagnes et qui est partie plus à travailler SNCF, EDF, etc. Et ce terrain était abandonné, donc j'ai repris ça pour pas cher. C'est le terrain que j'ai acheté 1500 balles à l'époque, 1500 euros, 2002 exactement. Parce que c'est une époque où j'étais un peu paumé, j'avais une vingtaine d'années, j'avais besoin en fait de me créer mon cocon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je savais pas trop comment le faire, je savais pas trop. Et je me suis dit, bah, recentre-toi sur tes vieilles envies, et je suis revenu à mes envies de gosse en fait. De vivre sur un pan de montagne, dans une cabane avec des poules, des chiens, des chats. Je me dis, bah, je vais faire ça, non pas comme métier, mais juste me faire un peu mon cocon, parce que j'avais aussi l'idée de pouvoir voyager. La jeunesse aime voyager, et je revenais d'un, en fait, d'un parcours aussi en Afrique où j'avais passé 7 mois. Et quand je suis revenu, j'étais un peu décalé, un peu déphasé. À cet âge-là, on est un peu une éponge, quoi, tu vois. Donc je m'étais un peu noyé, en fait, dans la culture africaine. Et quand je suis revenu ici, je m'attendais à un changement. Et quand on voyage, quand on est jeune comme ça, quand on a 18 ans, on change pendant le voyage et on s'attend à ce qu'il y ait du changement quand on rentre. Et j'ai pas vu ce changement-là. J'ai vu les gens assis sur le même banc, à la même place, avec les mêmes discussions, avec les mêmes problématiques, avec les mêmes rêves. Rien n'avait avancé. Ces 7 mois-là de voyage, quand j'avais 18 ans, pour moi, c'était 10 ans, en fait. Je me suis retrouvé un peu perdu, quoi, honnêtement. C'est pour ça que je me suis recentré dans ces rêves de gosse. Sans penser en faire ma vie ou mon métier ou quoi que ce soit, je me suis dit, bah, je vais faire cette utopie dont on parle, quoi, pour me recentrer et puis après me construire, savoir un peu ce que je voulais faire, etc. Et je suis devenu agriculteur un peu par hasard, quoi. Donc j'ai repris ce terrain, après le terrain des voisins, après les gens qui me demandaient d'entretenir leurs oliviers. Comme ça, en fait, j'ai eu un contrôle de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'ont dit, monsieur Héroux, ce que vous faites, bah, c'est du travail au noir, etc. Il faudra vous déclarer. Donc je me suis déclaré, puis je suis agriculteur depuis 2006. Et j'ai vécu sur ce petit baraque de 9 mètres carrés exactement, pendant des années, de façon précaire. Hein. Donc j'ai vécu sans électricité pendant longtemps, non pas par idéologie ou philosophie, mais par fait, quoi. Donc précaire, c'était comme ça. Et petit à petit, bah, voilà, j'ai fait un peu d'argent, j'ai acheté des outils, j'ai construit un peu le truc, défriché, les oliviers ont poussé, etc. etc. Et après, j'ai construit, en fait, j'ai créé une association qui s'appelait Aux Arbres et qui faisait de l'événementiel, donc du théâtre, du concert. Et l'idée, c'était de mêler tout ce qui était dynamique rurale, donc paysanne, avec un attrait, en fait, pour les personnes citadines, et mélanger, en fait, la ville et la campagne sur... clairement, c'était boire des bières ensemble, quoi. C'était un peu l'idée, c'était pas politisé non plus, enfin, juste voir la rencontre et découvrir d'autres gens. Moi, j'aime bien découvrir les histoires des gens, quoi. Moi, je me fascine des gens, quoi. Moi, j'adore rencontrer des gens différents, même des bourges ou des précaires. J'aime bien écouter les gens qui me racontent leur vie. Et puis, tu vois, c'est ces trucs qui font que dans la vie, bah, t'as choisi un chemin parallèle par amour, par détestation, par tous ces trucs de la vie qui font que où t'en es maintenant, quoi. C'est pour ça que les vieux, quand tu parles avec eux, quand ils te racontent leur vie, des fois, tu te dis, putain, il y a des virages, des tournants assez incroyables, quoi. Et moi, je suis assez fasciné par ça, quoi. Donc, je vivais sur mon pan de montagne, un peu tranquille, tout ça. Et après est arrivé le rétablissement des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen. Donc, de la vallée de la Roya, c'est dans le sud-est de la France. C'est une vallée qui est franco-italienne. Et on s'est retrouvé avec fermeture de frontières et clairement une chasse au noir, etc. Et moi, j'avais mon petit confort personnel. Donc ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans la Roya, j'avais mon train de vie, niveau économique ça allait, je suis pas riche du tout, hein, toi, j'ai gagné le tiers d'un SMIC, quoi, mais ça m'allait très bien, pas de crédit, pas de loyer, je mangeais ce que je produisais, etc. Je faisais mes marchés, ce qui me permet de m'acheter mes clopes, payer l'électricité, le machin, enfin tu vois. Il y a des militants qui m'ont dit « Ouais, Cédric, il y a des gens qui sont en galère à la frontière. Est-ce que tu peux héberger des gens ou mettre des tentes sur son terrain ?» Et je dis « Enfin, moi, je suis bien, je suis heureux. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont aimé. Enfin, j'ai rien eu de grave dans mon enfance, mais c'est ce monde-là, en fait, me rendait un peu malheureux. Et là, j'avais retrouvé, en fait, un sens à ma vie. » très modeste, hein, tu vois, une vie très 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 modeste, pauvre, mais ça m'allait très bien, quoi. Et m'engager dans une dynamique politique, j'avais pas envie de troubler ma vie, par confort. Et je me suis retrouvé un peu en conflit interne en moi-même. Ce qui m'a troublé, c'est que moi, je revendiquais dans ce côté culturel que je faisais avec ces concerts, etc. J'étais dans un discours de la reprise en possession de l'espace public et faire du concert dans l'espace public, sur les places de village, de faire des zones de marché, dans des endroits un peu incongrus, quoi, une ruelle, un truc. Moi, j'aimais bien ça, tu vois, genre une ruelle, comment on fait vivre de manière différente une ruelle grâce au théâtre, grâce à la peinture, grâce... Enfin, moi, je suis pas artiste, mais je suis assez fasciné par l'art et je me suis entouré d'un monde un peu artistique, etc. Et du coup, là, on me demande d'héberger et je dis non. Enfin, je dis non, j'ai pas envie de troubler ma vie, j'ai ma vie confortable, pas envie de changer, quoi. Et après, il y a eu des rencontres qui se sont faites avec des personnes en migration, tu t'arrêtes, tu prends en stop une famille avec des gamins, etc. Et je me suis retrouvé un peu dans le même état que je me suis retrouvé quand j'avais 18 ans avant d'arriver dans la Roya, perdu, parce que j'étais perdu, parce que en fait, tout ce que je revendiquais n'avait plus de sens. Parce que par lâcheté, en fait, je n'osais pas agir. J'ai retrouvé en fait la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Ça m'a vraiment troublé en fait. Tout ce que je revendiquais le soir dans les bars ou dans les fêtes avec mes gros discours de gauchiste, anard, etc. Bah, ça ne valait plus rien. Alors, je parlais de la devise française en fait. Liberté, égalité, fraternité. Et moi,
au départ, on aurait dû être liberté, égalité, propriété, hein, parce que 89 est quand même une révolution bourgeoise, et puis ils ont dit mon propriété c'est un peu vulgaire, on va mettre fraternité à la place.
Mais la propriété nous a vachement aussi aidé, parce que la propriété elle est beaucoup plus respectée que l'individu, et ce qui a permis tout ce qui s'est fait dans la Roya, c'est parce que c'était sur un lieu privatif, et la propriété privée elle est respectée, les individus non, et c'est pour ça qu'on a réussi à gagner tous les combats qu'on a menés aussi. Mais pour revenir à la devise liberté, égalité, fraternité, sur ce côté en fait de la liberté que je prenais sans avoir conscience en fait que c'est notre devise nationale, mais ma liberté en fait elle s'est envolée parce que en fait j'avais plus la fraternité, et ce côté en fait de la lâcheté, de pas m'impliquer dans cette dynamique politique humanitaire, ma liberté s'est complètement envolée, c'est que mes discours sonnaient complètement creux, et c'est pour ça que l'action que j'ai menée envers les personnes en migration en fait, ça a été tout d'abord, en fait, pour me sauver moi-même, en fait, pour me retrouver moi-même sur mes discours et rester droit dans mes bottes, en fait. J'ai mis le doigt dedans, ça m'a bouffé le corps, bouffé la vie, bouffé la tête. Donc, je commence à prendre des personnes à 26 000, enfin, des gamins, ou des familles, ou des femmes esselées. Enfin, moi, je prenais un public, entre guillemets, précarisé dans la migration. Et c'est que les femmes sont pas plus faibles que les hommes pour pouvoir passer toutes seules, c'est pas ça, c'est qu'elles sont plus cibles dans la migration. Elles sont ciblées par la prostitution, par le viol, par les gamins aussi d'ailleurs, hein, par le viol. Et c'est pour ça que j'ai aidé ces personnes-là, c'est qu'elles étaient fragilisées par tout ce que mettait en place l'État français contre les personnes en migration. Donc je commençais à accueillir, au début c'était 8 personnes, etc. Et j'ai fait ça quelques mois, et après le bouche à oreille en fait est passé. Et les personnes sont venues toutes seules jusqu'à chez moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Breil-sur-Roya, à pied, ça, on met 7 heures, il y a 20 km, on va dire, mais par les montagnes, etc., ou les voies de chemin de fer, il y a 7 heures de marche, quoi. Et du coup, on se fait complètement déborder par les gens qui débarquent à la maison.
La maison qui fait toujours 9 mètres carrés.
Non, là, j'avais agrandi un peu. C'est en 2009, j'avais un peu agrandi. J'avais pas de thune, donc du coup, j'ai pris des bottes de paille, un enduit à la chaux dessus, et j'ai refait ma baraque avec 2000 balles, quoi. Enfin, tu vois, ça n'a pas coûté trop cher. Et petit à petit, on se retrouve à 7, 15, 40, 50, et on est monté jusqu'à 250 chez moi. Et à un moment, il fallait trouver une solution qui ne soit pas humanitaire, qui ne soit pas forcément localisée dans la vallée de la Roya, mais qui soit politique et nationale, en fait. Parce que la problématique de la gestion de la migration, ce n'est pas un problème de la Roya, en fait, c'est un problème de la France, c'est un problème de l'Europe, mais c'est même un problème du monde, en fait. Et du coup, on a commencé à faire un combat juridique, à attaquer le préfet. En fait, on s'est servi des armes de nos opposants, les médias et le juridique. Et on a utilisé ces armes-là contre l'État. On a gagné quand même pas mal de batailles sur un point de vue juridique et sur un point de vue médiatique aussi. Et c'est ce qui a fait avancer le projet, quoi.
Pendant que tu es sur tous ces fronts-là, ça tourne comment à la ferme, à l'exploitation, disons ?
Ben, ça tourne en veille. Je fais le minimum, je perds pas mal de fric, je perds pas mal de temps. L'agriculture, c'est ça, en fait, c'est un travail de longue haleine. T'as pas de salaire à la fin de la journée ou à la fin du mois, en fait. Ton salaire, il se fait sur tout le courant de l'année. Si tu merdes une saison, bah, tu la rattrapes l'année d'après, quoi. Et clairement, ouais, je perds pas mal de fric. Toute la campagne, en fait, l'exploitation part un peu en friche. Ça devient compliqué parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens arrivent de nuit comme de jour. Donc, je dors 2-3 heures par nuit. Puis, il y a tout le harcèlement policier, les gardes à vue, les perquisitions, les procès, le côté médiatique, machin. Et ça bouffe pas mal de temps, quoi. Après, c'est des combats qui ont été nécessaires parce que depuis, ça va quand même beaucoup mieux dans la Ville de la Roya. On a réussi aussi à changer le droit grâce à un changement aussi de la Constitution. Donc, on a mis la fraternité à valeur constitutionnelle et ce qui a obligé en fait le pouvoir législatif à changer la loi. Donc, la loi a été changée. J'ai été jugé avec cette nouvelle loi qui, normalement, en fait, devrait exonérer la possibilité de poursuivre des personnes solidaires, en fait, hein, ce fameux délit de solidarité. Mais après, on va un peu avancer un peu plus vite sur le fait de... Il y a une organisation, en fait, qui se crée sur mon exploitation agricole, de l'ordre de la solidarité. Ça veut dire quoi, solidarité, en fait? C'est de faire le même corps. Et les personnes en migration, il y a certaines personnes qui restent et qui, elles, gèrent le camp, en fait. Chez moi, c'est devenu un camp. On appelle ça le CCH, le camping Cédric Héroux. Et après, il y a une espèce d'autogestion qui se crée. Et des personnes restent sur place et on se retrouve en fait confronté au manque d'activité des personnes qui étaient en migration et qui tombent dans une espèce d'état dépressif, la migration passée. Parce qu'enfin, faut comprendre, c'est que pour migrer, il faut se couvrir d'une carapace pour assumer en fait tous les déboires journaliers, tous les sévices, toutes les tortures, tous les traumatismes. Et les personnes arrivent à avancer en fait avec un projet en fait, tu vois, lointain, de dire accéder à l'Europe, ou c'est pas forcément l'Europe en fait, mais c'est un cadre de vie meilleur. Et les personnes se fixent donc chez moi. Et là, découvre que bah, l'Europe, c'est pas si formidable. Mais il y a la famille qui manque et aussi tous les sévices qu'il y a eu lors du voyage bah, qui resurgissent. On se retrouve avec des gens complètement dans un état de dépression, quoi. Enfin, tu vois, et moi, je sais pas trop quoi faire avec elles. Je peux pas les faire travailler sur mon exploitation agricole parce que sinon, ça peut être du travail dissimulé ou la contrepartie qui ferait en fait bah, que je pourrais aller en prison parce que cette contrepartie, en fait, ça aurait pu être considéré comme un échange en fait d'aide contre travail et je peux pas me permettre de les faire travailler. Et du coup, on tourne un peu en France avec le film de Michel Toesca Libre et je découvre plein d'associations énormes et je suis assez halluciné de... Moi, j'étais dans la Roya, je me suis dit, on est un peu tout seul, en fait, tu vois, on a la tête dans le guidon et je m'imaginais pas qu'il y avait autant de solidarité en France. Et on n'en parle nulle part, ni...
Non, surtout pas.
On n'en parle pas, en fait, mais il y a des centaines de milliers de personnes, en fait, qui hébergent sans forcément avoir des discours politiques, mais des gens qui servent un café, qui vont donner des cours de français, qui vont jouer aux boules, qui vont, je sais pas, apprendre la couture, j'en sais rien, il y a 36 000 trucs qui sont faits en France.
Non, tu me disais, je me retrouve jusqu'à 250 personnes sur mon terrain. Comment on arrive à manger, proposer à manger à 250 personnes, la solidarité.
Après, il y a beaucoup d'assos qui nous ont emmenés à bouffer, mais après, c'est... Enfin, moi, comme je te disais, je faisais de l'événementiel avant, quoi. Et là, en fait, c'est comme un festival, oui. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool, ce qui aide beaucoup pour pas qu'il y ait de baston et de machin. Il n'y a pas de concert organisé, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de... C'est juste des chiottes à bouffer, donc c'est pas si compliqué. Moi, gérer du monde, ça, je savais faire, quoi. C'était pas... C'est un festival sans musique, quoi, en fait. Donc ça, c'était assez facile. Mais surtout que, comme je te disais, les gens, il y a certaines personnes qui sont restées, qui étaient donc bénévoles sur le truc, qui étaient un peu solidaires du truc, et ça a fonctionné, quoi. Mais après, la différence entre un festival et la vie réelle, enfin, la vie de tous les jours, c'est qu'un festival, on est là pour faire la fête, mais là, sauf que là, les gens sont pas là pour faire la fête. Donc, ils sont là pour vivre. Et vivre, il faut avoir une activité, il faut donner un sens à sa vie, il faut être utile. La sociabilisation, c'est ça, en fait. C'est s'intégrer dans un système et c'est faire société. C'est avoir un rôle au regard des yeux des autres. Et là, elles ne pouvaient pas travailler, donc, ces personnes-là. Donc, et du coup, en fait, avec le film de Michel Toesca, on tourne partout en France et on découvre des communautés Emmaüs. Enfin, je redécouvre les communautés Emmaüs. Donc, tout le monde connaît Emmaüs, mais pas grand monde sait ce que c'est vraiment. Et les communautés Emmaüs, c'est des gens en grande précarité, donc c'est un accueil inconditionnel, donc c'est des étrangers avec ou sans papier, des Français, c'est un peu tout mélangé, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des familles, des enfants. Les communautés vivent sans subvention de fonctionnement et vivent de leur activité, de leur travail. Et moi, ça me parle vachement, ça. Moi, j'ai toujours vécu comme ça, d'avoir une espèce d'indépendance. Et même quand j'organisais des événements culturels, on ne demandait jamais de subventions. On était petits, donc c'était facile pour nous. Je ne critique pas les assos qui demandent des subventions, c'est pas ça, quoi. Mais c'était un peu dans ma logique de gestion, quoi. Et Emmaüs, en fait, répond complètement à mon attente. Et surtout, en fait, c'est les seuls qui peuvent répondre en fait à des questions, parce que vivre à plusieurs dans une même maison, sur un même lieu, ça emmène des problèmes. Tu as des problèmes de cohabitation, ça emmène du vivre ensemble, etc. Et les questions que j'avais, en fait, les réponses concrètes, ça a été les communautés Emmaüs. Et du coup, on leur demande, on leur pose la question, est-ce qu'on peut pas intégrer cette fédération? Et ils répondent par oui. Mais en fait, ce qui était compliqué, c'est que eux, normalement, ils font du bric-à-brac. Donc, ils vont vendre des meubles, des machines à laver, des frigos, des machins, des bibelots. Et nous, on veut faire de l'agriculture. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu une communauté Emmaüs en 2019. Donc, j'ai laissé mon exploitation agricole à l'association qu'on avait créée. Et je suis devenu responsable de communauté. Donc, là, maintenant, on est deux co-responsables, Marion et moi. Et on vit à 15 personnes. Et on a cherché de l'argent pour acheter un bâtiment qui était en dehors de chez moi aussi, parce que j'avais besoin aussi de retrouver ma vie un peu normale. Et on a acheté un bâtiment d'Embreuil-sur-Oya, où on fait l'agriculture. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on a réussi à déconstruire en fait l'image de ces gens dont on n'en veut pas. Et c'est pas que les migrants, en fait, c'est aussi les pauvres. Parce que tout le monde dit, oui, les SDF français, etc., machin, mais personne ne veut les voir devant sa maison, personne ne veut les voir, et c'est pour ça qu'on les dégage de toutes les villes, et qu'on dégage la pauvreté des villes. Enfin, c'est ça qui me rend un peu fou, quoi. T'as avec les discours de droite ou d'extrême droite, t'as dit, oui, les SDF français, etc., mais c'est des gens qui hébergent pas les SDF français. Et toutes les associations, en fait, qui hébergent les personnes en migration, hébergent aussi des personnes SDF françaises. En fait, quand on lutte contre la précarité, on lutte, en fait, pour le socle commun, en fait, du respect de l'individu, ben, en fait, c'est une dynamique qui est internationaliste, en fait. C'est que, on regarde pas la couleur de peau, on regarde pas la religion, on regarde pas le genre, on regarde pas l'âge. On aide les gens parce qu'il faut les aider. Mais pas parce qu'ils sont gentils, hein. C'est pas ça. Hein. C'est qu'on les aide, même on peut aider des connards, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est pas de l'humanitaire, c'est un engagement politique. Parce que ce qu'on veut pas, ce qui est compliqué dans la précarité, c'est pour ça qu'on l'a géré dans la Vallée de la Roya, c'est que si tu laisses des gens à la rue, dans la précarité, ils vont foutre le bordel, en fait. Forcément. Tu laisses des jeunes dormir dans la rue sans bouffer sur la place du village ou dans le quartier ou dans la ruelle, ben, pour bouffer ou pour machin, ils vont vous voler ou ils vont. Tu vois, la précarité emmène à la délinquance. Et on n'aide pas les gens pour eux-mêmes, en fait. On n'aide pas une personne, en fait. On fait société. C'est qu'on se dit, il n'est pas concevable, en fait, de laisser les gens dans la rue parce que ça va créer un trouble d'ordre public. C'est comme l'école, l'éducation, au moins. C'est qu'on se dit, on éduque les gens. Pourquoi? Parce qu'on en construit le monde de demain, en fait. C'est ça, c'est cette vision un peu long terme, en fait, de l'action, quoi. Je reviens, parce que j'ai tendance toujours à m'éparpiller. Je reviens donc à Emmaüs Royen. C'est que maintenant, avec tous ces déboires, avec tout ce qu'on a fait comme accueil, tu vois, j'ai accueilli plus de 2500 personnes. Maintenant, c'est pas une entreprise, mais c'est en alerte, en fait. C'est une association à but non lucratif, il y a personne qui s'enrichit. Mais on vit à 15 personnes, et on travaille, on cultive, avec des budgets prévisionnels, avec des plannings, avec des notions de rentabilité au niveau des cultures, non pas au niveau des individus. Emmaüs, ça réinvente un monde. C'est pour ça qu'on appelle accueil inconditionnel. C'est qu'il n'y a pas de demande, en fait, de rentabilité sur l'individu. Il faut que l'activité soit rentable au bout du compte, mais on prend tout type de personnes. Par exemple, une personne, si elle travaille doucement, lentement, tout ce qu'on demande, c'est pas de faire vite, machin, c'est juste de faire du mieux que tu peux, avec tes moyens. Il y en a qui vont travailler plus que d'autres, moins que d'autres, mais ça, c'est pas grave. C'est qu'on est un collectif et on conçoit les difficultés de chacun et on comprend l'individu dans le groupe. En fait, on réinvente en fait un système. Et moi, c'est ce qui me permet d'être heureux et de pouvoir vivre dans ce monde-là, c'est d'inventer en fait une alternative, de faire société avec des gens qui sont complètement rejetés. La mixité là-dedans, moi, je la trouve belle. Tu vois, à la maison, il y a Benjamin, c'est un jeune de 25 ans qui a eu des problématiques dans son adolescence et qui se retrouve là. Nationalité française. Après, t'as Idrissa, Fanta, qui sont de Guinée-Conakry avec leurs deux gamins. Leurs deux gamins qui vont la plus grande à l'école, le plus petit à la crèche. Et t'as une famille albanaise, t'as un roumain, un ancien militaire. T'as, enfin, toute cette mixité-là qui arrive à vivre ensemble. Et ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que pour ces personnes-là, c'est pas un choix, en fait. C'est des personnes qui nous ont appelés parce qu'elles avaient pas d'abri, qu'elles étaient rejetées, qu'elles n'arrivaient pas à créer leur place, en fait, faire leur nid. C'est pas des personnes qui se choisissent, c'est pas une coloc. C'est une solution, non pas imposée, mais subie. Et on arrive quand même à créer une belle entente et à créer une dynamique et à créer des projets et à créer Enfin, j'espère que Emmaüs Royat, avec le regard qu'ont les gens de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut être un peu contagieux. Nous, ce qu'on a envie, c'est aussi d'être contagieux, en fait, de démontrer qu'on arrive à faire autrement que ce que vivent les Français et les étrangers en France. Ce qui me dérange, moi, dans la politique actuelle, c'est qu'on met les pauvres contre les étrangers, et j'ai envie que les pauvres arrivent à conscientiser le fait, en fait, où on met les pauvres contre les pauvres. Et tu vois, la gestion de ce qu'on a fait de la migration, ça a été une gestion des classes sociales, parce que qu'est-ce que représente la migration? Ça représente la pauvreté. Notre système politique et néolibéral ne veut pas de la pauvreté. En tout cas, si elle en veut, c'est pour justement en profiter. On l'a vu avec le discours de Darmanin. Ben, si on aura besoin un peu de main-d'œuvre, on les prendra, et le jour où on n'aura plus besoin d'eux, on les dégage. En fait, c'est une espèce de néocolonialisme assez dégueulasse. Mais c'est pas que néocolonialisme, en fait. C'est que ce côté de on prend et si ça sert plus, on dégage, c'est notre système. C'est, en fait, c'est le système que vivent les Français tous les jours. C'est pour ça que cette lutte, en fait, en faveur des étrangers, c'est pas une lutte en faveur des étrangers. En fait, c'est juste une lutte de la condition dans laquelle on veut vivre ici, là, sur un point de vue local. C'est pas forcément ici en France, en fait. Ça peut être ici ailleurs, quoi. Enfin, moi, dans la Vallée de la Roya, je me considère pas en France, je me considère dans la Vallée de la Roya. Quand je suis ici ou à Paris ou à Strasbourg, je me sens un peu comme dans un pays étranger aussi, quoi. Enfin, tu vois. Et chez moi, c'est la Roya. On invente ce petit projet. C'est petit, hein, c'est 15 personnes sur une petite exploitation agricole sur 5 hectares avec un petit bâtiment, avec des petits projets. Mais ça fonctionne, quoi. Et ce qu'on a envie, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici ce soir. C'est que j'ai envie que ça soit contagieux. J'ai envie de partager. J'ai envie de redonner confiance aux gens à reprendre possession, en fait, du vivre ensemble, de dynamique politique, de se dire, bah, mon chez-moi, c'est pas juste mon balcon, mon salon, c'est aussi le dehors, en fait. C'est mon palier de porte, c'est la rue, c'est le quartier, c'est le village, c'est la vallée, c'est le département, c'est après jusqu'où on sent chez soi. Comme je te disais tout à l'heure, moi ici, je me sens pas chez moi. Moi, là, chez moi, c'est la vallée de la Roya. Mon chez-moi, mais comme si c'était mon salon, quoi. Et dans mon salon, ben, j'ai envie de savoir qui j'ai dans mon salon, de savoir comment ils s'appellent, de savoir que les gens vont bien. L'hospitalité, c'est ça, c'est d'accueillir les gens comme si c'était dans son salon, quoi. C'est très utopiste, hein. Mais
des utopies qui étaient des utopies jusqu'à ce qu'elles deviennent des réalités, hein. Je sais pas, le droit de vote des femmes, le fait de pas faire travailler les enfants dans les usines, mais plutôt de les envoyer à l'école. Pendant très longtemps, c'était des utopies jusqu'à ce que ça devienne plus des utopies. Tu dis, il y a près de 2500 personnes qui sont passées dans ton salon. Est-ce qu'elles ont toutes eu des papiers pour travailler et vivre en France? Est-ce qu'il y en a qui ont été obligées de rentrer?
Après, je ne me rappelle pas tout le monde, hein, donc, bien évidemment. Mais après, il y a eu des amitiés qui sont créées. Il y a des gens avec qui on est toujours en contact. Et c'est presque une famille, quoi. Enfin, des gens qui sont à Nice et qu'on se voit régulièrement. Après, les gens sur lesquels on n'a plus de traces non plus. Vu qu'on a développé, en fait, l'accès à l'asile et qu'on avait un public qui venait d'Érythrée, du Soudan, Darfour et pays en guerre, donc du coup, bah, c'est les personnes qui ont leur statut de réfugié, qui ont eu des papiers. Mais la bataille n'est pas finie, même quand t'as tes papiers, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre la langue, se faire des amis, se créer un lien social, trouver un travail, et ça, c'est un travail super long et super dur, quoi. C'est la grande différence avec ce qu'on crée maintenant avec la communauté Emmaüs Royat. C'est que maintenant, on donne un cadre, on donne une activité, on donne une raison sociale, quoi. Enfin, tu vois, une vie dans un lieu. Et les personnes qui se retrouvent même avec un statut de réfugié, mais sans amis, sans famille, et c'est dur à vivre. C'est pour ça que la migration, en fait, c'est pas une chance. Souvent, j'entends dire des militants dire oui, c'est une chance pour. C'est pas une chance, en fait. C'est une catastrophe, la migration. C'est que c'est des gens, en fait, qui se séparent de leur famille, de leur culture, de même les codes de sociabilisation, de discussion. C'est qu'on a des codes complètement différents d'un pays à l'autre. On a des mécanismes, en fait, de sociabilisation. Ouais, salut, comment tu t'appelles, machin, qu'est-ce que tu fais, t'attaques, les petites blagues entre deux, machin. On le réalise pas. On est plein de codes, en fait, dans la sociabilisation. Et les codes sont très différents entre les Chinois, les Africains, les Marocains. En fait, on n'a pas du tout la même façon d'ouvrir une discussion, des sujets. Et là, quand t'arrives dans un pays que tu connais pas, enfin, il faut s'imaginer. La migration, c'est, imaginez-vous, vous devez partir, vous allez au Japon. Apprendre le japonais, les codes, la bouffe, tous les mœurs, c'est super compliqué, en fait. Et t'es tout le temps à côté de la plaque, même dans des discussions. Il n'y a pas la même façon d'appréhender les individus, de faire connaissance. Et tout ça, c'est super compliqué. Tous ces changements, et c'est comment on arrive à refaire société, en fait. Comment on arrive à s'intégrer. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas d'accueil, en fait. très mauvais accueil. Et comment on arrive à se construire des gens qui vivent la migration, non par choix, mais par nécessité. Comment ces personnes arrivent à vivre. Après, on peut se dire, on n'en a rien à foutre de ces gens, c'est possible aussi. Mais la question, elle est, pour notre société, avec des gens pour qui on n'a rien à foutre, qu'est-ce qu'on attend d'elles, en fait ? Moi, je suis même plus étonné quand j'entends à la radio un Afghan se balader en slip avec un couteau dans la main en criant « Allahu Akbar », quoi. Mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue. Ça, souvent, quand je fais des conférences, je demande qui a vécu déjà dans la rue. Enfin, moi, j'ai déjà fait un peu de la zone. J'ai dormi dans des bagnoles pendant quasiment un an. Et de dormir dans le froid ou encore dans une bagnole, ça va parce que t'as pas peur, tu peux fermer les portes. Mais de dormir dehors, t'as quand même la peur. Et fait dormir avec la peur, c'est ultra destructeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui vivent à la rue, le taux de mortalité, en fait, c'est 48 ans. Et quand on vit dans un appartement, c'est le double, c'est quasiment le double, c'est 78 ans. En fait, on meurt deux fois plus jeune dans la rue que... C'est pas pour rien, en fait. Un mois de rue, il faut un an de reconstruction. Et un an de rue, c'est 10 ans de reconstruction. Qu'on soit français, étranger, qui on veut. Moi, c'est ça qui me trouble, en fait, dans cette société où on stigmatise l'immigration, mais on fait rien pour qu'elle se passe bien, en fait. Qu'on soit pour ou contre, ça, c'est un débat politique, machin, mais l'envie de tout le monde, c'est que ça se passe bien, en fait, pour la société, quoi. Et on a, je pense, l'obligation, en fait, de gérer les choses. Et ben, ça serait une obligation politique, quoi. C'est de donner des solutions et d'apporter, en fait, une alternative à la précarité, d'apporter une alternative à la délinquance, d'apporter une alternative à tout ça. Quand je vois, par exemple, Darmanin, moi, je suis dans un quartier populaire, quoi, comme il stigmatise les quartiers populaires. Enfin, qu'est-ce qu'il apporte comme alternative à la délinquance ? Aucune. Tu vois, et quand tu t'appelles Mohamed, que tu habites dans un quartier, que tu veux bosser, rien que l'adresse, rien que le code postal, tu travailles pas, quoi. Ou alors tu triches, tu vois. Ou alors tu changes de nom. Et à moi, c'est comment on construit notre société, quoi, avec une réalité mondiale. Moi, quand j'entends des partis politiques d'extrême droite, t'as l'impression qu'il y a la France et entourée de pays étrangers. On est 8 milliards. Et en 50, on était 2,5 milliards. 2,5 milliards en 50, et en 70 ans après, on est 8 milliards. Et forcément, avec la crise énergétique qu'on va se prendre dans la gueule, avec la crise sociale, pas qu'en France, hein, c'est mondial, avec toutes ces crises-là, économiques, climatiques, voilà, environnementales, et comment, pour ou contre la migration, c'est une connerie, en fait. C'est comment, en fait, t'organises ton lieu. Nous, on a repris possession de la Vallée de la Roya. Mais c'est comment de reprendre possession de son quartier, de son hall d'immeuble, de son avec des valeurs, avec et c'est pas forcément sans règles. Hein. Nous, la communauté Maïs-Roya, s'il y a des règles, en fait, racisme interdit, enfin, c'est le socle commun en fait pour le vivre ensemble. Et moi, ça m'est arrivé de virer des gens en fait qui n'arrivaient pas à comprendre en fait le respect des gens. Et puis c'est pas forcément que des personnes étrangères que j'ai virées, des Français aussi. Hein. Mais quand elles comprennent pas, tu fais un avertissement, t'expliques, un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, elles comprennent pas, tu vires en fait. Mais c'est comment on arrive à vivre ensemble et à ce que ça se passe bien en fait, et que les gens soient heureux malgré les galères de chacun. Enfin, les communautés Emmaüs, c'est ça, c'est des gueules cassées, c'est des galériens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui dorment ensemble. C'est compliqué. Déjà, imaginez-vous, vivre en couple, c'est déjà compliqué. Vivre en famille, c'est compliqué. Vivre en coloc, on sait que c'est compliqué. Et là, c'est une coloc avec des gens qu'on n'a pas choisis. C'est un choix par défaut. On est venu là parce que c'est le seul endroit qui nous disait welcome, quoi. Et là, de dormir dans la même maison, de manger sur la même table et de travailler ensemble avec une dynamique économique commune, c'est compliqué. Et tu vois, mais ça marche. Nous, les Maïs-Roya, ça fonctionne. Après, ça a été un travail hein, qu'on a construit d'année en année. Et là, les gens sont heureux, s'émancipent, se découvrent, et ça fonctionne. Et sur ce socle commun, des fois, il n'y a pas besoin de grands discours. Par exemple, sur la question du sexisme, sur la question du genre, les mecs, ils font des boulots dits genrés, donc ça veut dire ménage, la cuisine, etc. Et d'autres boulots dits genrés masculins, quoi. Et genre maçonnerie, soudure, etc. Et on a une fille à la maison, enfin une jeune maman qui a 25 ans. Elle s'est soudée, elle a appris à souder, elle a appris à faire la maçonnerie. Et elle le fait super bien, parce qu'elle se disait en fait qu'elle n'était pas capable. Donc du coup, quand je lui ai appris à faire tout ça, elle a fait super attention, parce que vu qu'elle ne se sentait pas capable, c'est un peu la différence entre les mecs et les meufs, quoi. C'est que les mecs disent « Ouais, moi je sais tout faire. » En fait, ils ne savent pas forcément tout faire. Et les meufs disent « Ah non, moi je ne sais pas. Et comment tu fais ça ?» Et elles osent en fait poser des questions. Et du coup, la fille là, qui est à la maison, elle est brillante, quoi. Et elle se découvre. Et on apprend aux gens aussi à se découvrir. Et c'est pour ça que Emmaüs, en fait, c'est un système qui est révolutionnaire, mais qui révolutionne l'individu. Et se révolutionner, c'est se connaître, souvent, c'est ça. S'accepter, de se découvrir. Et une fois que tu t'acceptes, que tu te découvres, là, tu peux vivre en communauté et tu peux aussi faire de la proposition politique beaucoup plus globale et beaucoup plus large. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, n'essaye pas de changer le monde, machin. Déjà, fais déjà dans ta maison, dans ta rue, dans ton quartier, et de reprendre en possession, en fait, ce cadre, en fait, local, en fait. Ce que tu vois et qui te dérange, essaie de le changer comme tu peux, quoi. Moi, quand je vais bosser le matin, je suis content d'y aller et j'ai pas de boulot au ventre. Je suis content de faire ce que je fais, je suis content de retrouver les gens avec qui je bosse et de créer les projets à plusieurs. Là, je vois les compagnons d'Emmaüs Roya au niveau, par exemple, le conseil d'administration, c'est des gens qui sont bénévoles, qui ont un métier, qui viennent nous voir une fois par semaine ou machin. Les compagnons, c'est eux qui vivent tout le temps là. Et ce qui est étonnant, c'est que les compagnons ont repris quasiment le rôle du CA. C'est des gens, en fait, qui ont des projets, qui alimentent, en fait, une dynamique politique, qui réfléchissent et qui sont complètement conscients, en fait, du projet militant et politique qu'on est en train de faire. Et c'est politiser les gens, en fait, c'est leur redonner, en fait, du pouvoir de changer les choses. Mais avant d'avoir du pouvoir pour changer les choses, eh ben, il faut se reconstruire soi-même, se connaître soi-même. Voilà, ce qu'on fait comme boulot, c'est ça, c'est qu'on révolutionne les gens.
Cette action, cette lutte, cette joie, elle a aussi amené à un changement constitutionnel.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Donc, j'étais en procès pour ce fameux délit de solidarité. En première instance, j'ai eu 3000 euros d'amende avec sursis. 3000 euros, on aurait pu y trouver. C'était pas très compliqué. Après, le procureur de la République a fait appel. On est allé en cour d'appel à Aix-en-Provence. Là, j'ai pris, c'était un peu plus compliqué, 8 mois de prison avec sursis. Donc là, c'est nous qui avons fait appel. Et on est allé en cassation. Et en cassation, on a fait ce qu'on appelle une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Et on a interrogé le Conseil constitutionnel et on lui a dit, en fait, pourquoi on ne pourrait pas être libre d'être fraternel. Là, c'est une question un peu compliquée, c'est que, en fait, la fraternité est dans la Constitution, mais à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité. Valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, c'est les députés, en fait, qui font des propositions de loi, etc. C'est voté en assemblée. Une fois que c'est voté, après, avec des amendements, etc., ça va au Sénat. Et au Sénat, ils repaufinent la loi, etc. Et une fois que c'est peaufiné, ça va au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel valide ou pas de dire oui, c'est dans les valeurs de la Constitution ou pas. Donc avant, il n'y avait que, bon, forcément la devise, mais à la valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité. En fait, les lois devaient juste considérer la liberté et l'égalité. Et la fraternité, non. Donc ça voulait dire qu'on pouvait faire des lois pour virer les SDF des rues, ou voilà, c'est un truc où la fraternité n'était pas forcément valeur constitutionnelle. Et nous, on s'est servi de la devise liberté, égalité, fraternité pour mettre la liberté qui était valeur constitutionnelle et dire nous, on est libre d'utiliser la devise, donc d'être fraternel, et on a demandé à ce que la fraternité, notre liberté de mettre la fraternité dans la Constitution. Donc du coup, la fraternité a été mise à valeur constitutionnelle. Et du coup, la loi devenait anticonstitutionnelle, parce que du coup, elle allait à l'encontre de notre devise et cette notion de fraternité. Donc les législateurs ont été obligés de changer la loi, et du coup, j'ai été jugé avec une loi qu'on a fait changer. Et ça a beaucoup énervé les politiques. Hein. Tu t'imagines, en fait, t'as une loi qui t'incrimine, et tu fais changer la loi avec le pouvoir constitutionnel, ils sont devenus un peu fous. Et du coup, j'étais relaxé. Et on a fait évoluer le droit. Mais le problème, en fait, c'est la loi, elle fait pas tout, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a toujours une interprétation de la loi, parce que le délit de solidarité, ça n'a jamais existé. Et la loi, en fait, il faut la faire évoluer avec les problématiques contemporaines, en fait. Cette loi de l'aide au séjour des personnes en situation irrégulière, c'est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est une loi, en fait, qui était faite pour incriminer les gens qui aidaient les Juifs. Et du coup, c'est à l'époque de Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait dit, bah, cette loi pue un peu, il faudrait l'alléger, on va mettre une immunité humanitaire, une impossibilité de poursuivre les gens dans un cadre humanitaire. Donc, si on aide les gens sans contrepartie directe ou indirecte, ben, on peut pas être poursuivi. Et pour moi, ça aurait pu suffire. Hein. Et ils ont trouvé une contrepartie. Ils ont appelé ça la contrepartie militante. Ils se sont dit, mais vu qu'il fait ça pas que dans un cadre humanitaire, mais dans un cadre politique, on pourra l'incriminer. Ce qui tient pas trop la route, sur un point de vue juridique, quoi. Voilà, on a voulu mettre un peu plus le paquet. Et du coup, voilà, on a fait ce truc-là avec la QPC, etc. Mais après, voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu fais changer les lois que tu fais tout changer, quoi. C'est toujours d'interprétation. Tu vois, l'État fait beaucoup d'actions qui sont complètement illégales. À la frontière, on a fait condamner le préfet des Alpes-Maritimes plus de 400 fois en 2 ans. En ce moment, ce qui est troublant, c'est ça, c'est que l'État ne respecte pas la loi. Donc on nous demande de respecter la loi, alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas. Petit à petit, en m'entourant d'avocats, de juristes, etc., j'ai commencé à bien comprendre le droit des étrangers et aussi le devoir de l'État et du département. Et tout le bordel qu'il y a eu dans la Roya, c'est pas parce qu'on a accueilli des gens, en fait. C'est parce que l'État n'a pas respecté le droit et n'a pas fait son travail. Par exemple, sur la Convention de Genève, le pouvoir en fait, des personnes en migration à faire une demande d'asile, il est complètement bafoué, parce qu'ils vont te répondre « oui, mais bon, en fait, la Convention de Genève, ça a été fait au début pour les Juifs. » Enfin, la Convention de Genève, ça a été ça, en fait. Ça a été des gens qui sont fait persécuter en Europe, et on s'est dit « on ne pourra pas entraver les gens de passer une frontière à l'autre et demander une protection. » Mais ils ne se sont pas dit « tiens, les gens vont arriver d'Afrique. » Et là, du coup, ils disent « non, mais la Convention de Genève, ça marche pas trop ». Ils osent pas dire ça, mais c'est, en fait, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça qu'elle est remise en question, la Convention de Genève, là, par notre État, et qu'elle la respecte absolument pas. Parce que normalement, en fait, pour faire une demande d'asile, il suffirait de le demander à la frontière. Normalement, on n'a pas le droit, en fait, d'empêcher des demandeurs d'asile de rentrer sur le territoire français. On n'a pas le droit de le faire, sur un texte de loi. Mais ils le font quand même. En fait, il y a vraiment une notion de dire « mais c'est pas pareil, c'est pas comme avant ». Et sauf que... quand tu lis un peu l'histoire, c'est que les Juifs, on disait pas les Juifs, on disait les réfugiés. Ça me fait penser à un bateau, en fait. Un paquebot qui est parti d'Europe, avec donc des réfugiés en 40, qui allaient jusqu'en Amérique latine, à Cuba. Ils ont demandé, en fait, la protection internationale, donc l'asile à Cuba. Ils ont dit non. Après, ils sont allés aux États-Unis au-dessus, ils ont dit non. Ils sont allés au Canada, ils ont dit non. Ils sont retournés, du coup, en Europe. Et là, ils ont tous fini dans les camps de concentration. C'est un peu comme maintenant, en fait. Sauf que la différence, c'est qu'on ne met pas les gens dans les camps de concentration. C'est pour ça que je ne fais pas un parallèle, tu vois. Bon. Mais la gestion politique, elle est un peu la même, dans le sens où il y avait des petits sommets européens de dire, bon, qui c'est qui en prend, combien vous en prenez, etc., machin. C'est exactement la même problématique. Et là, maintenant, on le fait différemment. C'est qu'on organise une noyade, en fait, en Méditerranée. Vous savez, pendant l'Ocean Viking, là, qui a accosté à Toulon, qui a été entravé d'arriver sur les côtes italiennes, il y avait trois bateaux qui ont fait des ronds dans l'eau pendant quasiment trois semaines, voire un mois. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a d'autres bateaux, en fait, de personnes en migration qui étaient sur la Méditerranée qui sont noyés. Vraiment une noyade organisée par l'Europe, et c'est un fait. Enfin, j'espère qu'on prendra conscience de ça dans les temps futurs. Mais en tout cas, c'est le cas en ce moment, quoi. Donc, personne n'est complice, personne n'est coupable. C'est un peu comme pendant la Deuxième Guerre, chacun avait son rôle, personne ne savait. Je me rappelle, ma grand-mère était allemande, elle est décédée il y a 20 ans. Au début, elle ne savait pas, en fait. Elle était gamine à Bologne, elle ne savait pas. Elle avait son petit copain, en fait, qui était... elle ne savait même pas, en fait, qui était juif, mais qui était juif, et elle a pu retrouver par la suite. Et elle a pris conscience un peu de ce qui se passait, en fait, tous ses voisins qui partaient, mais ils ne savaient pas, quoi. Et ma grand-mère, en fait, elle a fini en prison, enfermée par les nazis. Et donc, ils étaient 19 à être poursuivis en bande organisée pour terrorisme et passage de frontières. Quand elle a réalisé, en fait, tout ce qui se passait, ils n'étaient pas nombreux à savoir vraiment ce qui se passait. Et peut-être qu'ils se fermaient les yeux, peut-être que... C'est ça qu'il faut faire attention d'où on va, comment on y va, parce que ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec Darmanin, quand il dit il y a les gentils migrants et les méchants migrants, on va commencer à mettre les personnes en situation irrégulière avec des OQTF sur les personnes recherchées. On va. Et surtout, on n'apporte aucune solution, quoi. Il y a une problématique, en fait, pour les reconductions dans les pays d'origine, c'est que les pays d'origine, s'ils refusent de les accepter, ils restent en France. C'est le problème qu'il y a en ce moment avec l'Algérie, avec plein de pays, c'est qu'ils refusent de les prendre. C'est pour ça que c'est pas évident, en fait, de gérer l'immigration et surtout les retours au pays. Et si on part dans cette dynamique en ce moment politique, etc., de la haine de l'étranger, machin, c'est qu'on risque de faire des grosses conneries dans le futur, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention... tous se mettre d'accord, qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je fais, à la limite on s'en fout, mais de savoir jusqu'où on va, en fait, et de se mettre un peu des barrières et de se dire c'est quoi notre socle commun. Notre politique, elle se doit de respecter l'individu, elle se doit de ne pas maltraiter les individus et de conserver la dignité de l'individu, de ne pas sortir de ça, quoi. Et je pense que, enfin j'espère, quoi, qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Après, ces histoires de gestion, combien on en prend, combien on n'en prend pas, si on accueille dignement, pas dignement, enfin, je sais pas, ou le taux d'allocation, ou tout ça, en fait, à la limite, voilà, c'est des discussions qu'on pourrait avoir, mais une discussion qu'on ne doit pas avoir et qui doit être sensée pour tout le monde, c'est ça, en fait, c'est qu'on ne doit pas maltraiter les gens, quoi. C'est pas possible. Et j'espère qu'on peut tous être d'accord là-dessus, quoi.
Tu l'as souvent entendu, la petite phrase de Rocard, dont on n'entend toujours que la première partie, hein, ouvrez les guillemets, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y avait une virgule. mais elle doit en prendre sa part.
Ouais, ouais, bah, après qu'on lâche aussi la grappe aux miséreux, quoi. Enfin, les colonies françaises sont terminées, mais quand tu regardes Bolloré, comment il s'est comporté en Afrique, c'est pas de temps fini, en fait. Hein. Et moi, les gens d'extrême droite qui me disent ce genre de choses, je veux dire, lâche ton portable, et enfin, moi, je politise tout. Quand je vais dans un magasin et que je vais acheter quelque chose, il faut savoir un peu les conséquences qu'on met là-dedans. L'Afrique, pour globaliser en fait ce continent, il y a des richesses quand même précieuses à l'Europe dont on se sert, et on se sert de la corruption en Afrique pour pouvoir faire notre business. On l'a vu en Libye. Avant que ça soit le bordel en Libye, que toute la migration passe par la Libye et qu'on finance la Libye pour que ça s'arrête, juste avant, c'était cadré. Je dis pas Kadhafi, c'était un homme génial, c'était un dictateur, etc. Mais c'est un mec qui a travaillé avec Sarkozy, qui a financé la campagne de Sarkozy, et d'un coup, il était gênant, il s'est fait buter. On se retrouve avec une situation libyenne en 2017-2018 qui a été celle-là, en fait, où on a eu des centaines de milliers de personnes qui ont débarqué d'Afrique et qui voulaient pas. Moi, j'ai eu des gens chez moi qui voulaient pas arriver en Europe. Il faut comprendre, c'est qu'avant, la Libye, déjà, elle voulait créer une monnaie africaine et sortir du CFA, ce qui a beaucoup dérangé l'Europe, hein, beaucoup. Un peu comme les Russes en ce moment, hein, ceux qui voulaient arrêter de travailler avec la monnaie européenne et le dollar. Parce qu'il y a toujours, en fait, dans les guerres, je ne dis pas qu'on fait la guerre pour ça, je ne dis pas ça du tout, mais il y a toujours ce petit truc en plus où il y a des pays qui veulent sortir, en fait, sur la monnaie soit européenne ou du dollar, avec qui, voilà. Et du coup, ça, c'est un prétexte en plus pour que l'OTAN mette son grain de sel. En tout cas, déjà, qu'on lâche un peu la grappe à l'Afrique, qu'on les laisse un peu gagner de l'argent de ce qu'ils font, et ça serait pas mal. Et puis, on a une dette aussi en Afrique. Hein. Moi, j'ai des gamins qui sont venus et qui m'ont dit « Moi, je suis venu en France parce que c'est mon pays colonisateur. » Et les Africains sont assez troublés de la méconnaissance géopolitique française. Et c'est qu'en France, on est des gros nazes. On commence à ressembler aux Américains. Il y a la France et tous les pays étrangers autour, quoi. Et on est 70 millions en France. Il y a 8 milliards d'habitants dans le monde, quoi. Enfin, tu vois, on est quand même un peu nombriliste, un peu comme les Américains. Hein. Et c'est que les Africains connaissent complètement la géopolitique, au moins européenne, voire mondiale, et sont beaucoup plus au fait. Et moi, j'en prends beaucoup avec les gens qui sont chez moi, où j'ai des potes colombiens, où j'ai des potes partout dans le monde, et ils sont beaucoup plus au fait de la géopolitique, quoi. Et nous, les Français, on est des gros nazes sur ces questions-là, quoi. Et on sait pas du tout ce qui se passe dans le monde, on sait pas du tout les dynamiques économiques qui se passent dans le monde, et on est assez ignare là-dedans, quoi. C'est qu'à un moment, il y a une mondialisation par ce qu'on appelle le libéralisme. Ce qui est marrant, c'est le libéralisme, il y a le mot liberté dedans, mais c'est assez délirant, en fait, c'est assez ironique. C'est un système, en fait, qui opprime la planète. On nous écrase complètement. Quand j'entends dire en France, il n'y a pas d'argent, etc., c'est clair que l'État français n'a pas d'argent. Mais quand tu vois, par exemple, un mec, là, je sors de la France, hein, mais comme Elon Musk, qui détient l'équivalence du PIB grec, il y a des questions à se poser. Bolloré, combien d'argent il a ? Enfin, tu vois, il y a un moment, je ne suis pas dans la lutte des classes. Moi, je connais des milieux bourgeois, je connais des milieux des nouveaux riches, etc. Je ne suis pas à vouloir maltraiter les riches pour que les pauvres aillent mieux. Parce que je pense que si tu mets les pauvres avec autant d'argent que les riches, ils font pareil que les riches. Mais c'est le système qu'il faut changer. C'est qu'il y a un moment, partage, mon gars, quoi, tu vois. Et le premier est là, quoi. C'est pendant la crise du Covid. La crise du Covid, ils se sont gavés. Nous, on a galéré, tout le monde a galéré, mais là, les 2% là, qui détiennent les 50% des richesses en France, eux, ils se sont encore gavés, quoi. Je leur veux pas de mal, c'est pas ça. Hein. Mais c'est juste créer une société un peu plus juste, et peut-être que si on arrive à créer... Déjà, rien qu'en France, ce serait déjà pas mal. Et si on arrive à être un peu plus juste avec aussi les pays africains et d'ailleurs, peut-être qu'il y aurait peut-être moins d'immigration aussi, quoi. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les mécanismes, en fait, qui se mettent en place. Demain, ça va être les gauchers, par exemple, ou les roues. Et on va faire un mécanisme contre les roues ou les gauchers. Mais le mécanisme sera toujours là, en fait, tu vois. Et demain, ça va être les homos, après, ça va être les trans, après, ça va être les handicapés, après, ça va être les gauchistes, après, ça va être les tziganes, après, ça va être... Faire attention, en fait, là, aux mécanismes qu'on met en place, en fait. Hein.
Et toi, qu'ils s'en prennent pas aux brins myopes, ça me dérange pas.
Ouais, ça peut, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mécanismes qu'on met en place. Ben des fois, il y a des outils qu'on prétend outils qui peuvent se transformer en armes, et en armes contre nous, quoi. Et les chasseurs le savent bien, d'ailleurs. Mais oui, il faut faire attention aux mécanismes qu'on met en place, même si on en a rien à foutre. C'est pour ça que des fois, je leur dis, hein, je veux dire, à la limite, noyons-les, quoi. Enfin, tu vois, en Méditerranée, etc. Pourquoi pas, enfin, mais assumez-les, quoi. Ne faites pas semblant de ne pas vouloir que, avec ce début de discours, assumez pleinement votre fond de pensée. Allez-y. Et que ça soit acté, quoi. Parce que moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est les mécanismes qu'on met en place et en faisant semblant qu'ils n'existent pas. Là, il y a des morts en Méditerranée, c'est clair et net. On finance la Libye avec des camps de concentration, ça s'appelle comme ça. On dit camps de concentration, je dis oh là là, quand même, c'est avec Herou. Et compare les Juifs, c'est pas que compare les Juifs. On appelait ça des camps de concentration pour les Juifs. Là, on concentre aussi les gens en Libye par nationalité, par sexe, par âge. C'est une réalité. Où il y a de la traite humaine, où il y a de la torture, où il y a de la vente d'esclaves, où c'est une réalité. La Libye, c'est ça, quoi. Et on finance ces gens-là.
Pour clore cette conversation, Cédric, j'aimerais qu'on termine par ce par quoi on a commencé, un mot-clé, joie, plaisir. Tu t'es aussi lancé là-dedans parce que tu trouvais que voilà, ce repli sur soi n'était pas cohérent avec ta philosophie, avec ton aspiration profonde. Est-ce que toutes ces aventures, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, font que tu te sens plus en cohérence avec toi-même? Rebouclons sur la joie et le plaisir de faire avec les autres.
Ouais, bien sûr, mais après, moi j'ai l'impression que l'individu, en fait, est aussi compliqué que le monde. Et je crois qu'on est à l'image du monde. Et toutes les contradictions, les réflexions, qu'est-ce qui emmène à l'émotion, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'est-ce qui fait qu'on est malheureux, tu le rattachement, en fait, à ce qu'ont vécu nos parents, tout ce passé qu'on traîne, tu vois. Enfin, moi je pense qu'apprendre à connaître le monde, c'est apprendre à se connaître soi-même. Après, on le met dans le sens qu'on veut. Peut-être qu'on peut apprendre à se connaître et après apprendre à connaître le monde, mais je crois que les deux vont ensemble, en fait. Et c'est qu'on apprend à connaître le monde qu'on apprend à se connaître aussi, quoi. Et c'est une découverte de soi. Enfin, j'ai fait un truc avec des lycéens pour leur parler de tout ce que j'ai fait, etc. Et je me suis dit, mais autant, tu vois, mon bouquin, autant il n'y a que des conneries dedans. En fait, c'est le libre arbitre, en fait. Et avant d'avoir du libre arbitre, d'être objectif, en fait, sur ce qui se passe autour, il faut aussi avoir du libre arbitre sur qui on est vraiment. Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on réagit avec colère à ce moment-là? Pourquoi on réagit avec un excès d'empathie à ces moments-là? En fait, essayer de se comprendre, c'est aussi comprendre son identité. Je crois que, tu vois, il y a les identitaires, comme maintenant qu'on dit les identitaires, etc., on pense à l'extrême droite. Mais je crois que c'est des gens qui sont complètement en carence d'une identité, qui ont une identité complètement fragilisée. C'est pour ça qu'ils ont peur du grand remplacement. On te dit, les Zemmouriens, c'est leur grand remplacement, etc. Mais c'est de savoir qui on est, de quelle identité on a, et d'être assez confiant de qui on est pour aider l'autre, et pour créer aussi un système sociétal, connaître l'humain, en fait, connaître l'humain, et tous ces travers, en fait, toutes ces perversions de qu'est-ce qu'emmène le pouvoir, qu'est-ce qu'emmène, tu vois, le narcissisme, qu'est-ce qu'emmène, et on n'est pas plus fort que les autres. Tu vois, souvent, on dit, il y a tel député, tel ministre, etc., qui a joui de son pouvoir pour abuser du corps des femmes, ou qui a joui du pouvoir pour abuser de l'économie du pays, ou qui a, tu vois, et mais on l'a tous dans le sang, on n'est pas meilleur que les autres. Et on peut être pire aussi, tu vois, et ça, ce côté-là, on l'a tous dans le sang, en fait. Et se dire, on a tous un brin nazi tu vois, qui coule dans nos veines, un brin raciste, un brin sexiste, un brin d'abus de pouvoir, etc. Et c'est pour ça que il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles, et il faut mettre aussi un socle commun, en fait. Le socle commun, c'est ça, en fait. C'est de reconnaître, en fait, ses travers et ses défauts personnels, reconnaître les travers et les défauts, en fait, des humains, et essayer de faire des règles pour pas qu'il y ait de débordement. C'est que peut-être que moi, tu me donnes du pouvoir autant que t'en donnes Ardamanin, peut-être que je pourrais être pire que lui. Et tu m'en donnes autant que Mussolini, peut-être que je pourrais être pire que lui. Je vaux pas mieux que lui, en fait. Et en fait, il faut pas arrêter d'incriminer l'individu et remettre en question la société. Et il faut faire pareil avec les personnes qui font des délits mineurs ou majeurs actuels. Au lieu d'incriminer l'individu, tu te demandes pourquoi la société, en fait, a créé, en fait, ce glissement, en fait, ce... Je crois qu'on a besoin de ça, en fait, de se connaître en connaissant les autres, et en se connaissant mieux, peut-être qu'on pourra mieux connaître les autres par la suite, en fait. Et on n'est pas meilleur que les autres, hein. On n'est pas meilleur que son connard de voisin, on n'est pas meilleur que le connard de facho, on n'est pas meilleur, et on a tous un connard en nous, quoi. Mais vraiment, c'est pour ça qu'il faut un peu d'humilité et faire attention, hein. Il faut faire attention même au pouvoir, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis pas dans la lutte des classes. Je suis pas du tout dans la lutte des classes. C'est une connerie, en fait, celui des classes. Parce que si on nous donne du pouvoir, on ferait pareil qu'eux. Vu qu'on connaît ce que ça veut dire d'être opprimé, c'est quelles règles on met, même si un jour on est au pouvoir, et des règles qu'on sera obligé de respecter, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, en fait. On est égaux, quoi. et en égo, mais bon, l'être humain, moi je souvent dit Cédric Héro humaniste, mais moi j'adore les chats.
Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cet échange avec Cédric Héro, qu'on remercie pour sa joyeuse combativité. Conversation à réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chronique,